première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Philippe. Van Cotteren.
C'est ça.
Vous êtes-vous rendu en Hainaut, au Grand Ornu, déjà?
Pas encore.
Pas encore.
Pour une seule raison, mes vacances cette année-ci étaient assez plus tard que prévu, et donc je ne pouvais pas y être pour le vernissage.
Et de toute façon, nous sommes au SMAC et l'exposition va s'achever beaucoup plus tôt.
Voilà,
chez
que
vous,
là-bas.
Que
oui.
Là-bas.
Oui.
Peter Donsborough. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, va s'occuper.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tentop, me tentententum, stélé.
Le monde invisible.
Et pour nous, c'est très important d'avoir cette collaboration avec le Grand Ornu. C'est commencé avec un projet autour des cartes postales, ce qui est très beau de faire le lien, hein, avec cet objet presque archéologique, disons, parce qu'on ne trouve pas tellement de cartes postales de nos jours. Et donc j'espère que ce projet-ci est comme un début d'autres collaborations entre le Grand Ornu et le SMAC, comme un geste, plus qu'un geste important au niveau de la culture de la Belgique, comme une réponse à toutes des positions politiques que je ne partage pas.
Peter Donsborough, Overlaps, au Botanique jusqu'au 11 août, avec Grégory Thirion et Peter Donsborough.
Marie-Thérèse Champem,
un artiste américain vivant en Belgique, expose. Qui est Peter Donsborough?
1, 2, 3, 4, an art.
Peter Donsborough, c'est un artiste américain qui est né en 1940.
Peter Donsborough.
C'est un artiste qui a commencé à travailler à la fin des années 60, un peu dans ce contexte de remise en cause de la conception de l'art, avec les artistes conceptuels, mais aussi les artistes du land art qui travaillaient dans le paysage, enfin des choses extrêmement diverses. Et à cette époque-là, il a vraiment participé très activement à cette remise en cause de l'art traditionnel, on va dire. Et puis, progressivement, il a développé une œuvre extrêmement diverse, où se mêlent aussi bien des photos, des films, des vidéos, des travaux sur plan que des pièces murales qui sont faites de mots et de lignes, mais aussi des livres. Il travaille beaucoup sur les livres qui sont vraiment des choses à lire avec une mise en espace, une mise en page très travaillée. Et puis il travaille également pour l'espace public.
Le Monde Invisible est une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
C'est quelqu'un qui travaille en même temps à une réflexion sur l'espace, mais je dirais toutes les formes d'espace, c'est-à-dire les espaces dans le langage, les espaces dans la ville, les espaces dans l'architecture, dans le livre.
Wallahoni?
À qui?
Here. Ici.
Archive. Position. Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 2003, avec Marie-Thérèse Champagne, Hermeline Lebert.
Et il vient comme ça sur des cartes postales populaires, touristiques, de villes, de lieux. Il intervient en superposant des bribes de mots ou des lignes. Et ce sont des cartes postales qu'il envoie depuis les années, fin des années 70, à des amis ou parfois qu'il conserve. Et qui, pour l'occasion, sont exposés dans les deux institutions que je viens de citer, le SMAC à Gand et le MAX au Grand Ornu.
And, brought, to, back, be, to, brought back, to, back to, be, to, and, to, back to, and, to, and, brought, brought back to, and.
Le projet de Peter.
From MAX to SMAC. 2016, avec Philippe Van Cotteren et Denis Guilaine.
D'après moi, ce qui est très intéressant, ou fort intéressant, c'est que Par exemple, il y a quelques jours, un journaliste est rendu au musée et on parlait sur Peter Dansbourg. Et lui, il n'était pas au courant, par exemple, qu'à la place de Brucker à Bruxelles, il y a une pièce permanente en espace public de Peter depuis 10 ou 15 ans.
Wallahoni.
À qui?
Here.
Overlaps. Par Thierry Junico. À vos yeux, Grégory Thirion, Peter Dansbourg serait dans quelle filiation artistique?
Alors on est évidemment dans l'art conceptuel, l'art minimal, donc c'est la tradition de l'art minimal, un contexte de la fin des années 60, une révolution totale dans l'art contemporain, une révolution donnée par l'art contemporain sur le statut de l'œuvre, le statut de la sculpture. La sculpture devient un élément à part entière d'un ensemble, de l'espace où elle est posée. On peut penser au niveau de la photographie, puisque Peter a commencé à photographier ses œuvres dans les années 70, mais ses photographies sont devenues une part entière de son travail artistique fin des années 70. On peut référer ça à la naissance de cette nouvelle photographie qui a été portée par Stephen Shore, au niveau de l'architecture des villes américaines. On peut le lier également à Robert Frank, qui lui s'attachait plus à l'humain au sein de l'architecture, ou encore à Balthazar Burckhardt, avec qui il était très ami. Ils ont créé un livre ensemble, où les photographies de Peter et de Balthazar se répondent. La mise en page a été créée par Peter, et ce livre n'a jamais été publié. Donc ça, c'est un... une envie sans doute d'éditer ce livre, puisqu'on prévoit une exposition de Balthazar Burckhardt fin d'année. C'est assez étonnant d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout le lien entre Balthazar Burckhardt et Peter Dansbourg quand j'ai programmé ces deux artistes cette année. Et au fil des discussions avec Peter, voilà, il m'a parlé de leur grande amitié, du dialogue entre leurs œuvres. Ou sinon, il est évidemment dans la tradition du constructivisme russe. On peut penser à un artiste comme L. Lissitzky, qui fut très important dans justement, et on retrouve ça dans le vocabulaire de Peter Dansbourg, les grands aplats noirs qui étaient disposés dans des pièces. Ces aplats noirs étaient reliés par des lignes, soit en trois dimensions, soit à même le mur, en deux dimensions. Le langage était intégré également. Voilà, c'était vraiment une période très très riche. On peut citer beaucoup, beaucoup plus d'artistes. On peut parler de Sol Lewitt avec ses intégrations murales également, des structurations de l'espace. On peut parler au niveau de la photographie de Gordon Matta-Clark aussi, ses photographies sur l'architecture découpée, où il déstructurait totalement l'architecture. Il la déstructurait physiquement en creusant dedans. Ici, Peter ne déstructure pas l'architecture physiquement, mais le suggère par ses lignes, par ces grands aplats noirs, ces grands cadres blancs ou ces lignes noires qui rythment les murs de manière différente.
Voilà, Neon Peace 68. Je crois que tu peux le mettre sur ce petit mur à 1m15 comme les autres.
1m15.
Et puis donc ici, on a le Block Peace de 87. Les sérigraphies qui appartiennent au FRAC Nord-Pas-de-Calais, et les impressions j'ai donc sorties d'ordinateur de la collection Bilaran.
Je vous les place sur les petits rebords de mur.
Ok.
Grégory Thirion, vous dites livre, mais je pense à l'œuvre que Peter Dansbourg produit sous forme de livre.
Je pense que Peter a produit plus de 135 livres. Il n'aime pas parler de livres d'artistes, mais en même temps, on les catégorise de telle manière. Donc là, encore une fois, c'est toujours le même contexte. Fin des années 60, début 70, où tous ces artistes conceptuels, minimalistes, post-minimalistes, ont commencé à publier des petits livres, des petits carnets de notes sur leur travail. C'est également cette envie d'ouverture au monde, le partage, la pédagogie vis-à-vis du spectateur, du visiteur, la diffusion très bon marché, finalement, de leur travail. Et on remarque évidemment que tout est lié, le livre, le mur, l'espace d'exposition. Le livre devient un espace d'exposition, on est dans la deux dimensions, mais lorsque l'on tourne les pages, on crée du volume, et là on apporte la troisième dimension. Et il y a vraiment un travail de Peter sur la rythmique entre les pages, les allers-retours également, comme il nous propose dans un espace d'exposition. On retrouve la rythmique avec ses barres parallèles, qui sont disposées graphiquement de manière différente de page en page, et puis on est arrêté par une photographie. Voilà, il y a vraiment un jeu d'aller-retour qui est voulu.
And brought to back, be to brought back, to back to be to and.
Philippe Van Cotterin.
Où il y a son vocabulaire avec des tubes en acier noir et avec des lettres ou des mots, hein, des mots comme et, but, mais, hein, tous des mots qui n'ont pas de signification en soi, mais qui font, sont des mots qui font des liaisons, qui gèrent des rapports entre des choses, par exemple. Et c'est exactement ce vocabulaire qu'il applique aussi dans l'espace public qu'on voit sur les dimensions d'une carte postale reprise. Hein. Et d'une certaine manière, on peut dire que tout ce que Pitre a fait dans les cartes postales depuis environ au début des années 80, c'est son vocabulaire, c'est son manière de faire des esquisses, c'est sa manière de réfléchir sur l'architecture, sur l'espace, sur le langage, sur le rapport entre l'espace et le langage et tout ça. Et lui, je pense même qu'il est formé en tant qu'architecte. Récemment, il a fait un très beau projet dans le Miss van der Rohe Pavilion à Barcelone. Donc il y a toujours cette fascination pour l'architecture. Il a vécu à New York, qui est une ville dans laquelle on fait la référence à l'architecture moderne et tout ça. Mais au même moment, il est aussi fils de son temps, hein, dans le sens qu'il peut être compris dans toute une génération d'artistes conceptuels comme Lawrence Wiener, Victor Bergen, Joseph Kossuth, pour en nommer quelques-uns. Hein.
Back to and, to and brought, brought back to and.
Marie-Thérèse Champagne.
Position, on peut dire aussi position, en français c'est le même mot, et c'est une œuvre très caractéristique du travail de Pieter Downsbrough dans la mesure où elle est constituée de bandes noires et de mots coupés, des mots en lettres adhésives coupées. Alors, pourquoi les mots sont-ils coupés? Eh bien, je dirais que c'est une manière aussi de faire entrer toute l'architecture du mur et de l'espace environnant à l'intérieur de ce mot. C'est aussi une place qui est ouverte pour le spectateur, et ça, c'est quelque chose de tout à fait important pour Pieter Downsbrough. On a donné le titre de cette œuvre à la publication et à l'exposition parce que ça nous semblait vraiment un thème essentiel dans le travail de Pieter Downsbrough, qui travaille sur la position des objets dans l'espace, je pense à l'architecture, à l'urbanisme, mais aussi aux mots dans la phrase, mais qui réfléchit aussi à la question de la position du spectateur par rapport à l'œuvre et à la question de la position de l'artiste face au monde, avec toutes les implications que ça peut avoir de réflexion, je vous disais, sur le langage et l'architecture, mais aussi sur la politique, sur les relations entre les hommes, entre les artistes et les spectateurs. C'est une œuvre qui est très ouverte. Et c'est aussi pour ça que les mots sans doute sont coupés et ouverts. Ça peut prendre certaines formes du minimalisme, mais il y a toutes sortes de choses qui s'imbriquent à la fois les unes dans les autres, de référence à la musique, à la poésie. C'est quelqu'un qui est très lié aussi au milieu de certains poètes américains, qui a travaillé avec eux, illustré des livres pour eux. Donc toutes ces dimensions de référence aussi à la linguistique, sont des choses importantes qui se conjuguent dans le travail.
Mais lui, d'après moi, est une figure qui est un peu sous-estimée. C'est une œuvre, disons, rigide et silencieuse, qui demande un certain effort, évidemment, un certain point de vue du spectateur.
Grégory Thérion.
Mais il utilise la couleur, il aime la couleur, mais principalement dans ses livres, ses estampes ou ses collages. Donc on peut retrouver du bleu, on peut retrouver du jaune, on peut retrouver du rouge pourpre, du rouge sang, des couleurs assez primaires, finalement, aussi. Il ne la rejette pas du tout. La couleur induit un sentiment en général. Il essaye justement aussi dans son espace d'exposition de ne pas imposer de sentiment. Et donc il laisse libre cours à la pensée du visiteur, à l'échappée mentale. Et d'où la couleur noire et blanche omniprésente, qui permet justement de s'évader de la manière qu'on le souhaite.
Philippe Van Cotter.
Et donc, si on voit les cartes postales que Peter utilise, ce sont toujours des vues urbaines. En plus des cartes postales où il n'y a pas d'écriture, où il n'y a pas bienvenue à Bruges. Donc, comme des photos secs, avec souvent des couleurs très saturées, hein, comme les cartes postales Étion, hein, avec des lieux qu'on connaît du point de vue touristique, mais aussi au même moment, il y a des bâtiments ou des lieux qui représentent la politique ou des structures institutionnelles. Hein. Et donc, ça, c'est une. À travers les cartes postales et les interventions, d'après moi aussi, de temps à autre, humoristiques, il fait comme au même moment, comme une dissection, comment l'architecture est utilisée d'une manière saine ou au moins saine pour représenter des structures de pouvoir.
Il y a des relations avec Mallarmé aussi dans le travail qu'il fait dans les livres et dans la manière dont il joue avec l'espace et la mise en page de ces mots dans le livre. Et lui aime beaucoup raconter une histoire qui est que le mot hasard désigne à l'origine un jeu de dés. Et il se pose toujours la question de savoir si Mallarmé connaissait en fait cette étymologie du mot hasard lorsqu'il écrivait le coup de dés. Je crois que la complicité avec Mallarmé est très très forte et qu'elle se retrouve peut-être plus dans le travail de mise en espace des mots dans la page du livre que dans le simple fait d'avoir travaillé avec des dés qu'il a fait graver et sur lesquels il a fait graver des mots. C'est bien sûr la question du hasard, c'est la question de la dualité aussi qui revient dans tout son travail, c'est la question de la réflexion sur le langage, sur la combinatoire.
J'ai interrogé Marie-Thérèse Champem qui m'a parlé de vous. Et il y a des mots qui me restent, des noms ou des mots.
Il s'est construit, pour la petite histoire,
Denis Guillet.
Début des années 70, aux États-Unis, il s'est construit sa propre maison. Alors, on peut dire qu'il est architecte dès lors qu'il a construit une maison. Néanmoins, c'est plutôt quelqu'un qui regarde et observe, analyse l'architecture et qui, par des interventions très, très minimales, oriente en fait notre regard et la lecture qu'on peut faire d'un espace. Alors certains y voient une critique de l'urbanisme, certains y voient un éloge à l'architecture, d'autres y voient un rapport qui est plus lié au langage, parce que c'est un artiste qui joue avec les mots, avec un vocabulaire très restreint aussi, c'est un peu un minimaliste des mots, des conjonctions, des mots qui articulent « donc » et « parce que ». Mais, alors, en français, en flamand, en anglais, ça dépend un peu des lieux où il intervient, c'est parfois des langues encore plus étrangères, l'italien, l'allemand, quand il travaille en dehors de chez nous.
J'ai commencé les études avec l'architecture, comme un jeune homme, gamin de 14-15 ans. J'avais une forte intérêt pour l'architecture. J'avais même une fois écrit une lettre à Frank Lloyd Wright, il n'a jamais répondu. Mais j'avais...
Vous savez qu'il a écrit à Wright, l'architecte, quand il était adolescent?
Ah, ça je ne savais pas.
Il ne lui a jamais répondu, évidemment.
Ah, yeah. Ah, ça je ne savais pas. Ah, très beau.
Oui, parce qu'il voulait devenir architecte.
Yeah.
Il a étudié, mais il n'a pas fini.
Non.
Il a construit sa maison, c'est tout.
C'est ça. Mais donc il a écrit à Frank Lloyd Wright. Ah, incroyable.
Et puis bon, j'ai commencé les études là-dessus et pour plusieurs raisons, j'ai laissé tomber l'architecture. La question des études, des pratiques d'architecte, j'ai pris un virage vers l'art, la sculpture notamment, pas la peinture, la sculpture, les objets. Puis bon, j'ai commencé d'expérimenter, de chercher une voix, chercher un vocabulaire avec lequel je me sentir à l'aise et qui représente... On veut dire, il représente mes idées.
C'est clair, il n'y a rien superflu. C'est presque comme une démarche mathématique, entre parenthèses, même si l'intuition est très présente. Et la carte postale est devenue comme un objet obsolète. C'est devenu comme une chose qui est comme un emblème de la modernité du XXe siècle, ou de la deuxième partie du XXe siècle. Hein.
Peter Donsbrough, Overlaps, au Botanique jusqu'au 11 août. En quoi Peter Donsbrough serait-il un artiste politique, entre guillemets?
J'ai envie d'enlever les guillemets. Je crois que pour moi, c'est un artiste fondamentalement politique. C'est un aspect qui est peut-être trop peu connu du travail de Dansereau. C'est quelque chose qui, pour moi, est important. Encore une fois, ce n'est pas un artiste qui donne des leçons. Ce n'est pas un artiste engagé pour une cause, au sens traditionnel de l'artiste politique. Mais c'est un artiste dont le regard sur le monde qui nous environne est un regard politique. Et puis, il y a des œuvres qui sont plus explicites. Si vous regardez tous les collages, qui sont des collages explicitement politiques, qui fassent référence à la situation américaine, qui fassent référence à la crise du Moyen-Orient, qui fassent référence à des problèmes, je dirais, beaucoup plus généraux sur la planète, il y a eu, notamment dans les années 80, des œuvres qui étaient des œuvres très explicitement politiques. Mais je crois que tout le travail est sous-tendu à la fois par un désir de créer une relation qui ne soit pas une relation autoritaire avec le spectateur, ça je crois que c'est déjà fondamentalement politique, et ces mots qu'il écrit sur les murs, dans les livres, qui sont très souvent des mots de liaison, et vous ne savez pas entre quoi et quoi on doit établir des liaisons. Il nous laisse la liberté de définir les termes entre lesquels les liaisons sont proposées par lui. Donc ça me semble déjà quelque chose d'ouvertement politique, de ne pas vouloir être un artiste qui s'impose. Et puis ce qu'il dit sur l'urbanisme, ce qu'il dit sur la politique en général, le travail sur les dés a aussi des connotations très politiques, ça se voit très clairement dans certains collages, ça se voit aussi dans cette installation qu'il avait faite à Times Square sur ce qu'on appelle les spectacular boards, c'est-à-dire ces panneaux électroniques où défilent des images et des mots. Lorsqu'il pose la question de savoir si les dés sont pipés, on peut le comprendre évidemment de manière extrêmement large.
L'environnement naturel de Rome, c'est la ville, c'est tout est politique et d'office... Tous les gestes sont politiques, c'est peut-être pas ouvertement politique dans le sens d'avancer une ligne politique, une idée politique de base, mais en même temps, tu suis des idées, et les idées sont politiques de sorte gauche, droite ou centrée, c'est, toutes les idées elles ont une position quelque part sur le spectrum de pensée.
Grégory Thérion.
Il y a un discours politique qui finalement s'impose à nous dans le sens où son travail parle de la position de l'homme, de l'humain dans son environnement naturel. Pour lui, l'environnement naturel de l'homme est la ville, est l'architecture, l'habitat. Ce n'est plus la nature en tant que telle. D'ailleurs, la nature, on la qualifie maintenant de monde sauvage pour la plupart du temps, donc un monde de danger finalement qu'on ne maîtrise plus du tout. Et donc en cela, on peut dire que son travail est politique. On peut le dire également par des intégrations d'œuvres d'art dans la ville. On peut parler de la sculpture du boulevard Émile Jacquemin, qui est un nouveau cadrage de la rue au début et à la fin du boulevard, ou au début et à la fin, selon le sens que vous le prenez. Mais voilà, il y a un positionnement qui est proposé, et donc une réflexion qui arrive, ou pas du tout, suivant le spectateur. Mais il donne cette possibilité-là de réfléchir sur son contexte, sur l'architecture, sur la façon dont les bâtiments sont agencés, la circulation fonctionne à cet endroit. Donc oui, il y a une question politique à ce niveau-là. Il y a une question politique beaucoup plus affirmée lorsqu'il peut créer des pièces, comme il l'a fait dans les années 80 à Dijon ou même à Liège, où on peut retrouver des mots tels que « power »,« dominate », où là, clairement, on parle du pouvoir, de la domination, du pouvoir public, et il a également réalisé des interventions sur des pages de journaux où justement la page était choisie en fonction de son contenu qui lui était politique. Donc il y a une évidence à ce niveau-là.
Et je pense aussi sur le choix des cartes postales.
Mais lui, il a une résistance contre beaucoup de manières, comment le marché ou comment les curateurs ou le monde de l'art essayent de définir des choses.
Philippe Van Cotten.
Dans ce sens-là, évidemment, il est dans la tradition conceptuelle, ça c'est clair, mais c'est plus que ça pour moi. C'est plus que ça.
C'est-à-dire ?
C'est une démarche qui fait comme une réflexion qui renvoie les choses au spectateur. C'est presque plus important en tant que réflexion urbanistique que beaucoup de textes théoriques de certains urbanistes. Hein, il y a comme une densité dans ce travail qui nous donne une réflexion aiguë, pointue, sur l'espace public et sur le contexte dans lequel nous vivons.
C'est-à-dire une démarche politique.
Oui.
Au sens large.
Oui, mais pour moi, chaque artiste est un être politique. Hein. Et ça, à travers un vocabulaire très précis, très clair.
Peter Vansborough, Grégory Thirion dit que vous veniez repérer longuement l'espace.
C'est tellement compliqué, l'espace, avec la colonne, avec le balcon, avec les escaliers qui montent, la colonne rouge de briques, là. Donc j'ai passé plusieurs fois pour... Mais il faut dire aussi que la première fois que je l'ai vu, il y avait une expo, j'ai oublié qui, mais c'est tout en noir. Et après, une autre expo où le mur sont comme ça ou comme ça. Donc, ça a tellement changé chaque fois que je l'ai vu que j'ai pris des photos, j'ai pas mal travaillé mais dans ma tête et à l'atelier. Et vers le pain, je l'ai vu tout ouvert, tout rénové, et c'est superbe.
Denis Guilaine, Peter Vansborough, serait-il de la famille des artistes conceptuels ?
Il est clairement dans cette généalogie, dans cette filiation-là. Il est conceptuel dans le sens où il voyage léger. C'est-à-dire que c'est pas un artiste qui s'encombre de beaucoup de matérialité. C'est assez beau de le voir débarquer au Grand Ornu, avec une petite trousse dans laquelle il y a un rouleau de tape, de papier collant noir, un cutter, quelques lettracettes qui ont été parfois prédécoupées et éventuellement quelques tubes en acier très léger. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est conceptuel, je crois. Évidemment, il est aussi conceptuel parce qu'il travaille sur le langage. C'est une forme de déstructuration, de déconstruction du langage et de l'espace, donc il est conceptuel. Un jour, je lui ai demandé s'il était minimaliste, et il m'a dit non, je suis maximaliste. Et en fait, je pense qu'il a raison, parce que avec très peu, il fait énormément. Et une carte postale, justement, répond assez bien à cette définition-là, c'est-à-dire qu'une carte postale est maximaliste, parce qu'elle contient énormément d'informations et de potentiel. C'est à la fois une image, c'est une image populaire, c'est une image qui est une archive d'un lieu. Ça documente l'urbanisme des années 70 de telle ville ou l'urbanisme des années 80 de tel autre paysage, etc. C'est aussi un objet relationnel parce que c'est un expéditeur qui envoie un message à un destinataire. Et aujourd'hui, comme le disait Philippe Van Cotteren dans la très belle préface qu'il a écrite pour le catalogue, c'est un objet aujourd'hui de nostalgie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'envoie des messages par smartphone interposé. Rares sont les gens qui écrivent encore des cartes postales. Et je dirais que c'est un petit peu ce que le vinyle est au MP4. Mais récemment, j'ai vu un adolescent qui portait un t-shirt que j'adorais. Vinyle is killing MP4. Donc peut-être qu'un jour, la carte postale va détrôner le smartphone.
J'ai vu Hermeline Lebert déposer un catalogue à côté de votre sac.
Hermeline Lebert vient de...
Ce n'est pas un catalogue, c'est un livre qu'elle édite, un livre d'artiste.
Voilà, c'est un livre que Peter Vansborough n'appelle pas d'artiste, mais livre tout court. Il dit, on ne dit pas les livres de poètes ou les livres d'écrivains ou les livres de romanciers, c'est un livre.
Et le sens de ces parallèles qu'on voit souvent en sculpture qu'en figuration ?
Je pense qu'il y a plusieurs lectures. Mon interprétation, et qui est liée aussi à ce que j'ai pu entendre de Peter lui-même, c'est que je pense que ça, c'est une abstraction du corps humain. C'est-à-dire que le paysage est horizontal. Nous marchons verticalement dans un paysage qui possède une ligne d'horizon. Et donc on a une horizontalité qui est le paysage, la ville, l'étendue de l'espace. Et puis notre corps, nos deux jambes qui traversons ce paysage et cet espace. Et Peter est un grand marcheur et ses photographies
témoignent justement de ce rapport très physique malgré tout à l'espace. Donc pour moi c'est une sorte d'abstraction, de la même manière que Giacometti faisait des marcheurs très très filiformes. On a des tubes, des lignes, qui pour moi représentent dans leur plus simple expression les corps humains et la marche.
Tu prends un livre n'importe quel de je ne sais pas, bon, mais toi tu le lis, moi je le lis, quelqu'un d'autre, on est tous, toutes les trois, les autres idées de qu'est-ce qu'on a lu. Donc là, avec le livre, c'est une question d'un volume, c'est une question de temps qui passe, avec quelques traits, ou quelques mots même, mis sur la page, pour voir si ça vous dit quelque chose, c'est bien. Mais forcément, c'est pas forcément, mais dit à vous qu'est-ce que moi j'ai pensé. Donc ça, c'est bien, parce que comme ça, il y a une sorte de discours qui peut être commencé.
Et Denis Guilaine me dit que les parallèles verticales qu'on voit souvent à travers sa démarche renvoient à quelque chose de l'humanité, l'homme debout.
Non. Non, moi je ne vois pas ça. Mais chacun est libre de projeter sur une œuvre ce qu'on pense. Aussi les two pipes, les deux tubes qu'il utilise souvent, mis dans l'espace, ou ici comme au smack, au mur par exemple, détachés l'un de l'autre, c'est surtout une chose qui fait référence à la verticalité de l'architecture moderne. Donc il n'y a pas, d'après moi, dans le travail de Peter Dansborough, il n'y a aucune référence à l'humanité. Il y a une référence à un langage formel, qui vient de l'art conceptuel des années 60-70 et de l'architecture qui est, comme je viens de dire, sa formation. Et donc là, c'est l'enjeu entre l'espace, le langage et les formes ou les lieux, aussi les lieux vides. Mais là, comme chez Donald Judd, c'est le spectateur qui achève le travail. C'est le langage de Peter Dansborough. Et les œuvres de Dansborough n'existent que grâce aux spectateurs. Et c'est tout cet enjeu qui est en marche.
Oui, je me souviens qu'il y a un artiste contemporain qui est décédé aujourd'hui, de Dansborough, roumain d'origine, et qui portait un tube de couleur. Comment s'appelait-il ?
André Cadéré. Effectivement, c'est des bâtons de marche. Et qui lui aussi est un artiste, un grand artiste, malheureusement décédé très jeune, mais qui faisait partie de cette génération historique d'artistes conceptuels et aussi d'artistes qui ont voulu, redonner à la place du spectateur, une importance. C'est des registres peut-être différents, mais c'est sûr que Cadéré, comme Peter, avec extrêmement peu de choses, parvenait à questionner. Alors d'autres problématiques que celles peut-être de Peter Dansborough, mais Cadéré questionnait la question de la visibilité de l'artiste dans les institutions, etc., mais aussi avec ce bâton qui finalement le représentait. Donc là, il y a peut-être un parallèle avec l'interprétation que je me suis permise de faire des tubes verticaux de Peter, c'est que le bâton de Cadéré, c'est à la fois le bâton du pèlerin, du marcheur, du nomade, et en même temps, c'est sa signature. Et Peter est un artiste dont la signature est très présente. On reconnaît un Peter Dansborough directement. Ce qui pour moi est un indice en tout cas de la qualité d'un artiste.
Mais l'humanité est une chose dont les musées doivent se préoccuper, mais pas nécessairement l'artiste.
C'est assez étonnant, c'est un effet qu'on a remarqué en faisant le tour de l'exposition il y a quelques jours. Si vous allez un peu plus loin et que vous avancez devant cette pièce, vous avez un drôle d'effet. Vous avez l'impression que la pièce vous pousse en arrière, si vous la prenez du début de l'exposition jusqu'à la fin. C'est un peu le même effet lorsque vous êtes dans un train à quai et que le train à côté de vous commence à démarrer. C'est pas vous qui bougez, mais vous avez l'impression que vous bougez. Il y a un effet de décalage dans le temps, dans l'espace.
Peter Dansborough, Overlaps, au Botanique jusqu'au 11 août, avec Grégory Thirion et Peter Dansborough.
L'effet le même d'en haut, lorsque vous regardez la pièce tout en longeant la balustrade, vous aurez vraiment cette dynamique qui apparaît et qui change selon le sens de la marche. Je voulais relayer cette forme proposée sur le mur à une intégration très très monumentale qu'il a réalisée en France en 1990 à Rennes. Deux quartiers étaient réunis par un très gros carrefour urbain. Des transformations ont été faites, ont été prévues. Et puis Peter a voulu vraiment créer une œuvre qui rassemblait ces deux quartiers totalement différents au niveau de la population par une œuvre sur un énorme bâtiment qui proposait une façade blanche très frontale sur ce carrefour entre ces deux quartiers. Et il a proposé cette forme qui était dans l'autre sens, qui partait vers la gauche. Et donc vous avez cette forme qui part vers la gauche, qui est à contre-pied de la forme bien rectiligne du bâtiment. Et sur le bâtiment est écrit de manière orthogonale « Unite », coupé en deux, donc vous n'avez que la moitié de chaque lettre, et « Unite », unité, qui est reproduit sur l'une des transversales de la forme qui contrebalance la rectitude du bâtiment. Et lorsque vous voyez ça, automatiquement dans votre regard, il y a une envie de rassembler ces deux morceaux. Donc la population, le spectateur, le kidam qui se balade, automatiquement est confronté à cette œuvre, et qu'il la prenne en tant qu'œuvre ou pas, sera justement, ou pas encore une fois, confronté à cette envie de rassembler et d'unifier justement ces deux morceaux, comme ces deux quartiers qui finalement sont rassemblés au niveau du carrefour.
Effectivement, c'est quelqu'un qui considère que le livre d'abord est un espace, au même titre que l'architecture, et que dans l'organisation même du livre, avec des pages par exemple qui sont en miroir, des pages qui sont articulées par une reliure, eh bien, il y trouve, je dirais, les caractéristiques spatiales qui l'interpellent. Il joue souvent sur les images en miroir. On lit parfois dans l'exposition ici des mots en miroir.
Il est vraiment important de tourner les pages de la première à la dernière. Et en même temps, ce sont des éditions d'artistes qui sont accessibles à des tarifs tout à fait bas. Et ça aussi, je crois que c'est un geste politique. Ce ne sont pas des exemplaires de têtes numérotées signées pour les collectionneurs qui ont de l'argent. Ce sont des livres qui sont disponibles au prix d'un livre normal, ce qui permet à chacun d'avoir une œuvre de Peter Dinsbrough, qui est une œuvre à part entière.
Hermeline Lebert.
Pour moi, c'est le livre d'artiste parfait, parce qu'il a un fonctionnement interne. Il y a un fond noir, et ce disque gris qui se déplace, et cette barre argenté ici, qui commence sur une page droite et qui se déplace aussi peu à peu, hein, doucement, de page en page, 124 pages, et un petit mot qui se déplace aussi dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est jamais le même, un petit mot en blanc, et c'est tout ce qui se passe dans ce livre, et ça fait chaque fois une double page que je trouve très belle, comme un tableau abstrait, en même temps. C'est pour moi aussi un livre d'architecte. Vous connaissez Michael Snow, Cover to Cover,
oui,
c'est
oui,
un
oui.
livre que j'adore. Ici aussi, il y a quelque chose qui se déroule, c'est en même temps musical, c'est construit, c'est un livre qui est construit comme une maison, je trouve. Enfin, une maison, qui est vraiment, on sent que Peter a une formation d'architecte.
Assign a place to arrive, place to arrive or depart from.
Si je pense, Peter Dinsbrough à Hermeline Lebert, je pense à Livre d'artiste.
Ah, le livre d'artiste. Pourquoi le livre d'artiste?
Parce que je sais que vous aimez les livres d'artiste.
J'aime le livre. Le livre d'écrivain, de photographe, de cinéaste, de n'importe qui. Je trouve le livre intéressant. Je me demande toujours pourquoi on dit livre d'artiste. Si c'est un livre d'écrivain, c'est un livre de... Il n'y a pas toujours une qualification de où ça vient chaque livre.
Vous avez vu cette exposition qui s'est tenue au Palais des Beaux-Arts, il doit y avoir une dizaine d'années, dont la commissaire était Marie-Thérèse Champagne.
Position. Un très beau livre d'ailleurs, qui est... Non, évidemment.
Hermeline Lebert.
Évidemment. Non, fantastique.
Alors ça, c'est énigmatique comme tout ce que dit Peter. Qu'est-ce que vous diriez si vous voyez ça? Il y a toujours ces petits mots qui disent... Space, here, now, focus. Ça a toujours à voir avec l'attention, regarder, appréhender, saisir, je pense, visuellement. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez un livre comme ça, Thierry?
A place to play. Here,
to play, here to be there.
And as to
a play,
time
to play,
and
be there.
Forge, je sais
a
que c'est celui qui est dans le fond.
Here. A play, here too. To play, there.
Two lines, je te laisse celui-là, Alexandra,
here.
C'est pour celui
play.
Qui...
Play.
C'est bizarre,
too.
Il doit y avoir quelque chose
be
en plus.
There.
Oui, je suis pas sûre, donc je te le laisse pas. Je te laisse
le
bloc, block piece multiple, tu vois ce que c'est? Les petits blocs comme ceux-là, mais en bois.
Évidemment. 2002 ou 2001 ou quelque chose comme ça.
Et c'était à cette occasion qu'il a créé dans l'espace public, près de la place de Brocaire,
cette pièce. Yeah, c'est vrai. Yeah, absolument.
Il a beaucoup travaillé la cartographie, notamment dans ses éditions, dans ses livres. Le voyage est matérialisé par toute la série de cartes postales. Vous connaissez sans doute, Peter a produit plus de 400 cartes postales sur lesquelles il est intervenu avec ses lignes parallèles. Donc il nous montre encore une autre manière de voir une prise de vue. Il nous montre un premier plan avec ses lignes. Il nous montre un second plan avec l'image proposée, et en même temps il déstructure cette image et nous y fait réfléchir autrement. Ici, on peut penser à la boussole, tout simplement, aussi, cette croix que l'on a sur la boussole, trouver le nord, le sud, l'est. Les petites lettres coupées ou non participent à cette envie. On a envie de recomposer. Personnellement, moi, j'ai envie de recomposer les points cardinaux sur ces croix. Donc, encore une fois, il y a tout un jeu qui peut arriver en appréhendant ces œuvres.
Il peut utiliser le support spécifique du livre comme un espace assez adéquat justement pour ces jeux de mots et les rapports dialectiques entre positif, négatif, image, miroir, lecture d'un mot et au contraire un mot qui se lit ou qui se regarde comme une peinture géométrique. Parce que certains mots, quand on les inverse, on ne les lit plus, mais on les voit comme des signes horizontaux et verticaux.
Here to be. There. A place to. Place.
Le travail de Peter a commencé dans les années 70, les années 70, donc on est dans cette période très très riche de l'art contemporain où on explose toutes les frontières de l'art. Ça a commencé fin 19e, fin des années 60, début des années 70, c'est tout le milieu de l'architecture qui est révolutionné, c'est le milieu de la sculpture également, de la photographie. Alors la photographie, lorsque l'on voit les tirages de Peter, on peut la relier à d'autres artistes photographes de l'époque qui s'intéressaient eux également au contexte urbain, à la place de l'homme dans ce contexte urbain. On peut parler de Robert Frank pour la place de l'homme dans le contexte urbain, où on voit ces hommes envahis par l'architecture des grandes métropoles, subissant le joug du capitalisme, notamment dans ces grandes métropoles. On peut parler de manière plus poétique de Stephen Shore, qui lui, justement, faisait disparaître le côté humain et ne révélait que les structures architecturales. Et également, et ça j'en parle puisque nous présenterons son travail fin de cette année-ci, Balthazar Burckhardt, avec qui Peter était très lié, ils étaient amis, où là Balthazar nous proposait des vues aériennes, pour la première fois je pense même dans l'histoire de la photographie, d'énormes vues aériennes de Chicago, de Mexico, où on pouvait voir toutes ces lignes verticales, perpendiculaires et l'ordonnance imposée finalement à l'homme au niveau de son milieu naturel, puisque Peter parle des villes comme étant le milieu naturel de l'homme et non plus le milieu sauvage. D'ailleurs, on a la nature telle qu'elle existe maintenant est devenue un milieu sauvage pour l'homme et on ne la maîtrise plus du tout.
C'est d'abord un regard sur l'espace construit. Et si on a rapproché les cartes postales d'autres photos sur lesquelles il y a eu des interventions, des travaux sur les plans de ville et des maquettes, c'est encore une réflexion sur l'espace construit.
Vous le savez, Peter est architecte de formation. Il est passé à la sculpture très rapidement, mais toujours avec son regard d'architecte. Et cette œuvre aussi est assez emblématique de son travail, du lien entre l'architecture et la sculpture. On est face à une sculpture. On est face à une sculpture, à l'origine, on l'imagine, carrée. Mais il a décentré, il a décalé un coin. Donc ici encore, on a une ouverture proposée dans ce carré. Donc Peter ne nous enferme pas. Les lignes non plus ne sont pas terminées. Donc on a une possibilité d'ouverture, on a un échappatoire. Mais en même temps, on peut retrouver un plan. Moi, j'y vois un petit plan architectural d'un petit loft. On peut rentrer dans la sculpture, une ouverture nous est proposée ici. Ensuite, vous rentrez dedans Et lorsque vous êtes dedans, là, vous pouvez commencer à jouer. Vous pouvez le faire à l'extérieur, vous pouvez tourner autour, mais là, vous commencez à jouer avec les mots, leurs significations, les significations que vous pouvez y trouver vous-même. On peut faire un parallèle, évidemment, avec tout le développement de l'architecture moderne de la fin des années 50, qui s'est poursuivi dans les années 60. Mais on peut faire un parallèle avec la peinture de Piet Mondrian également, avec tous ces petits carrés de couleurs, où pour Piet Mondrian, le carré était justement un espace habitable par le spectateur, un espace habitable par notre vue et dans lequel on peut s'exporter, on peut rentrer dedans et imaginer toutes sortes de combinaisons avec les structures ouvertes, blanches, autour, transparentes, ou les autres couleurs.
Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ces cartes postales, et là, on va pouvoir aussi y trouver un certain humour, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont souvent des, j'allais dire, des cartes postales parfaitement anodines, de lieux magnifiques ou de lieux eux-mêmes complètement anodins, insignifiants, dont on se demande même pourquoi il y a eu des cartes postales de fête par rapport à ces lieux-là. Il met en évidence l'espace de la ville, il met en évidence l'architecture. Et toutes ces cartes postales sont des œuvres qui appartiennent à des collectionneurs privés, puisque ce sont des cadeaux que Peter Dunsbrough fait à un certain nombre de gens, à des amis, des gens qui ont travaillé pour lui. Et il leur envoie ces cartes postales. Il y en a deux pour lesquelles j'ai un petit faible personnellement, parce que ce sont des cartes postales au dos desquelles il y a juste le mot « welcome » et qui ont été adressés à des enfants le jour de leur naissance. Donc ces enfants, dès le jour même de leur naissance, avaient une œuvre d'art dans leur collection personnelle et c'était un mot de bienvenue en ce monde que leur envoyait Peter Dunsbrough.
Donde?
Où elle l'aura dit?
Als. Où?
And place.
There.
Tout.
And
e
time.
Well,
et chaque fois, on peut passer longtemps, hein? On peut méditer sur le mot, sur le qu'est-ce que c'est. Que c'est très beau, non? Hein? Et voilà, donc pour chacun de le vivre comme il veut.
There. And
e
well, barra.
La couleur donne des sentiments à chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on la voit très peu dans le travail de Peter, justement pour ne pas finalement altérer avec nos propres sentiments, nos propres ressentis. Mais il l'utilise de temps à autre, et principalement dans ses livres ou ses collages, où on peut voir apparaître du bleu, du jaune. Vous l'avez sans doute vu en arrivant, le drapeau que Peter a produit il y a quelques années avec Daniel Dutrieux. Il utilise le bleu. Voilà, tout simplement, il capte notre regard avec un bleu, bleu ciel aussi. Donc le drapeau s'intègre très bien dans cet espace aérien.
Où?
And
où?
There. As set.
Beaucoup de jeunes artistes ou d'étudiants d'école d'art sont très passionnés par ce travail. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est un travail que la jeune génération d'artistes va découvrir ou redécouvrir. Je crois que Peter Dunsbrough a été un peu enfermé dans une perception que les gens avaient de son travail et qui tenait au fait que le travail n'avait pas été montré dans sa globalité et que ça apparaissait à un certain nombre de gens comme un travail formaliste. Or justement, tout ce qu'on vient de dire sur la politique, tout ce qu'on vient de dire sur l'architecture montre bien, c'est peut-être un travail sur la forme, mais c'est pas un travail formaliste. Et c'est radicalement différent. Je crois que pour la génération d'aujourd'hui qui a besoin que les artistes parlent du monde, c'est un travail qui va être redécouvert.
Quelqu'un qui n'a aucune idée de votre travail, comment le donner, imaginer, hein? Qu'est-ce que vous questionnez en fait? Qu'est-ce que vous questionnez?
Bon, on va essayer de trouver les maquettes. Les trois maquettes de façade sont des maquettes sans titre, qui sont toutes de la même année, je crois que c'est 97. Bon, ça, c'est autre chose. Après, l'exercice consiste à retrouver les mots.
Oui, j'ai pensé à la radio en regardant cette exposition. Vous savez qu'il y a deux images de Radio France.
C'est ça qui est fantastique avec cette exposition-là, c'est que chacun y reconnaît des choses qu'il connaît.
C'est une sorte de cube explosé, on peut dire. Chacun peut pense qu'est-ce qu'il veut, mais moi je pensais à un cube exposé. Ça peut être ouvert, ça peut être fermé, question de présenter. Ça, là c'est un peu, c'est quoi le mot? C'est un peu excludé, un peu éloigné de chaque coin de l'autre, mais bon, ça peut être encore plus éloigné ou plus serré.
Peter Donsbrough, Overlaps, au Botanique jusqu'au 11 août, avec Grégory Thirion et Peter Donsbrough.
À lui de reconstituer ou imaginer que ça disparaît dans le, au fond de la salle, il y a un élément, un coin là, un autre coin là, pardon. Et ça c'est pour le spectateur, le viewer. Parce que pour moi c'est toujours... Je ne peux pas imposer sur le spectateur de penser comme ça ou penser comme ça. Chacun peut avoir leur propre idée à propos de qu'est-ce qu'ils ont vu ou qu'est-ce qu'ils ont regardé là.
Archive, Position, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 2003. Avec Marie-Thérèse Champagne, Hermeline Lebert. From Max to Smack, 2016. Avec Philippe Van Cotere et Denis Guilaine. Overlaps, par Thierry Junico. Le Monde Invisible est une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.